Chapitre 8. À l'aise dans son treillis kaki, chaussures de marche et veste en cuir usé, Kat Cordell se fondait parfaitement dans la faune d'East Village. Elle avait préféré se changer pour aller traîner dans un coin qu'elle savait reculé et pas toujours rassurant, plutôt que d'y débarquer avec son chemisier sexy et son pantalon qui moulait parfaitement ses formes. Elle était parvenue à enfouir une large partie de sa tignasse châtaine sous une casquette des Yankees et dissimulait l'émeraude de son regard avec une paire de lunettes de soleil rondes. Les confins d'East Village abritaient toute une série de tours donnant sur l'autoroute FDR et où s'entassaient quelques milliers d'habitants, certains d'entre eux n'étant pas toujours les plus recommandables. Annie Fowlings lui avait donné de quoi travailler. Kat avait mémorisé la photo de Lena, tirée d'un selfie mère-fille assez récent, sur lequel la jeune femme arborait un pull à grosses mailles noires sous un visage blafard, allongé, percé par deux trous sombres et des lèvres d'ébène. Maquillage noir, gothique et cernes assortis. Le demi-sourire ne suffisait pas à masquer un air profondément mélancolique. J'ai pris la photo la plus récente que j'ai et où elle est assez neutre, avait expliqué la mère dans le bureau de Kat 2 heures plus tôt, pour que vous puissiez bien la reconnaître lorsque vous la retrouverez. Mais Kat avait douté qu'elle dispose d'une pleine collection de clichés où sa fille riait et grimaçait. Le peu qu'elle avait appris d'elle et ce qu'elle en voyait à présent, tout renvoyait à une jeune femme triste, peu expressive. Le SMS qui paniquait Annie Fowlings était assez inquiétant. Là-dessus, Kat partageait son avis. Pourquoi mentionner sa petite sœur décédée depuis plus de 10 ans et faire comme si ce n'était pas le cas? Kat avait conseillé à sa cliente de retourner voir la police avec ce message et de tout leur expliquer. Elle ne voulait pas l'alarmer, mais ça ne sentait pas bon. Pas bon du tout. Annie Fowlings lui avait tout de même confié la mission. Les honoraires n'avaient posé aucun problème. Kat avait été claire sur un point. Lorsqu'un privé parvenait à mettre la main sur une personne disparue, c'était à cette dernière de décider ou non de reprendre contact avec son entourage. En aucun cas, Kat ne pourrait lui forcer la main. Cela signifiait ne pas dire à Annie Fowlings où se trouvait sa fille si Lena refusait que sa mère remonte jusqu'à elle. Annie Fowlings avait accepté. Du moment qu'elle aurait la confirmation que sa fille était en bonne santé et en sécurité, c'était tout ce qu'elle demandait. Les trottoirs du quartier n'étaient pas aussi bien entretenus que ceux des zones mieux fréquentées à l'ouest. L'herbe s'immisçait entre les dalles des chaussées qui tentaient de faire trébucher la moindre semelle approximative et des détritus s'amassaient un peu partout. La plupart des gens marchaient vite, regards baissés, cherchant le minimum de connexion possible avec les autres. C'était assez ironique quand on y songeait. Plusieurs hackers connus s'étaient fait prendre ici même. Des as du virtuel, multipliant les connexions dans un monde parallèle, tandis que dans la réalité, ils se fondaient parmi les ombres. Mais n'était-ce pas la nature même des liens modernes? Les réseaux sociaux pullulaient sur Internet, tandis que les relations sociales se tendaient de plus en plus dans le quotidien fait de chair et d'os. C'était le lot de la décennie. Le nouvel Eldorado, la conquête de l'Ouest pour tous, nivelant les différences physiques, financières et même intellectuelles. Chacun y avait sa place avec un sentiment d'espoir, d'apparence, d'affirmation, d'appartenance, qu'il ne trouvait plus sous sa véritable identité. La vraie vie, servant surtout à alimenter les profils numériques pour exister sur la toile. Cela en disait long sur l'état du monde. Tu vieillis, ma pauvre. Les jeunes ne voient pas ça comme ça. C'est une dualité assumée pour certains, un prolongement pour d'autres, un outil naturel ou juste une facette d'eux-mêmes. On ne se rencontre plus par le biais de copains communs. On étend les possibilités au monde entier via le web. Tu flippes parce que ce qui se passe, c'est que tes frontières explosent et que tu n'as pas grandi avec. Pas appris à ce que ton horizon soit sans fin. Il ne dépend que du temps que tu es prête à y consacrer. Quand même, vieillissante ou pas, dépassée probablement, il y avait quelque chose là-dedans qui ne la rassurait pas. Kat longea une école primaire qui ressemblait à un blockhouse avec ses murs gris sans fenêtres, puis traversa vers ce qu'elle prit d'abord pour un entrepôt derrière une haute grille et caché par les rares arbres et buissons du secteur. une croix en pierre surplombant l'entrée lui indiqua qu'il s'agissait d'une église. Elle y était. Elle s'était repérée au préalable sur Google Maps pour éviter d'avoir l'air d'une touriste perdue. En face, un conglomérat d'immeubles en briques rouges dominait la centrale thermique de Consolidated Edison qui barrait la route au nord avec ses hautes cheminées et fournissait à Manhattan la vapeur de ses chauffages et climatiseurs. Les tours d'habitation étaient en forme de X, comme pour mieux fondre la population dans l'anonymat, entourées d'écoles bunkers, d'églises qui ressemblaient à des hangars abandonnés, d'autoroutes bruyantes et d'usines fumantes. À bien y réfléchir, se dit Kat, il y avait finalement de quoi garder les yeux fixés au sol lorsqu'on vivait ici. Lena logeait au 9e étage du 10C. Double de ses clés en poche, Kat trouva la bonne entrée rapidement et sonda la boîte aux lettres pour y relever la présence d'un paquet de courriers qu'elle préleva avec son passe. Elle enfourna sa trouvaille dans sa besace en toile, avec l'intention de l'inspecter une fois là-haut, et s'empressa de filer devant l'ascenseur, préférant prendre l'escalier. Un peu d'exercice lui ferait du bien. Espace étroit, peinture fraîche mais déjà taguée à presque tous les niveaux, Kat s'accorda quelques étapes, le temps de souffler pour grimper jusqu'en haut, sous la lumière jaune des plafonniers. Elle avait les cuisses en feu lorsqu'elle parvint au 9e. Elle identifia la porte de Lena, sonna, puis, n'ayant pas de réponse, l'ouvrit avant de refermer doucement derrière elle. Kat retira ses lunettes et sa casquette. Il faisait sombre. Les volets étaient tirés, une odeur nauséabonde empestait l'appartement. Le rance d'une bouillie de graisse fondue mêlée à l'acide ferreux de la viande gâtée. Le parfum de la mort. Kat se rassura immédiatement. Si c'était le corps de Lena, ce serait bien plus puissant encore. Insupportable. Là, c'est plus... timide. De la nourriture pourrie dans la cuisine? Pas seulement, songea-t-elle en cherchant l'interrupteur de la main. Ce dernier cliqueta sans que la pénombre ne se dissipe. Tu n'as pas payé ta facture d'électricité depuis combien de temps, Lena? Kat n'était heureusement pas une débutante et sortit de sa veste une petite lampe torche qui souligna aussitôt les particules de poussière flottant dans l'atmosphère. Il y avait une pièce principale à sa gauche, puis ce qui devait être la cuisine, et en face, la chambre et la salle de bain. Kat décida de procéder dans l'ordre et entra dans le salon. Elle stoppa sur le seuil en manquant de se prendre la tête dans une forme étrange qui dansait mollement dans l'air. Un curieux lacis de fil, de forme arrondie, semblable à une rosace tissée. Une fois la chose prise dans le faisceau de sa lampe, elle reconnut un attrape-rêve indien d'environ 50 cm de diamètre. Il pendait du plafond. Le faisceau poursuivit son exploration. Lentement, dévoilant trois autres attrape-rêves qui tournaient lentement sur eux-mêmes à chaque angle de la pièce. C'est à cause du déplacement d'air que j'ai créé en entrant. Kat balaya toute idée stupide. Elle était seule entre ces murs. Ça ne faisait aucun doute. Lena avait des goûts particuliers en matière de décoration, songea la privée en immobilisant l'attrape-rêve devant elle. Elle découvrait l'ensemble petit à petit, au gré de ce que son pinceau lumineux voulait bien lui révéler. Une table occupée par des livres et des feuilles avec quatre chaises. Un sofa sur le côté, lui aussi jonché d'une couverture roulée en boule, d'un paquet de biscuits ouverts et d'un t-shirt froissé. Au fond, une longue étagère pleine de livres et d'objets en désordre. Plusieurs ouvrages empilés et non disposés avec les autres à la verticale. Un verre qui traînait au milieu, et plus loin, une tasse. Pas de télévision, remarqua Kat. Des bougeoirs un peu partout, et des coupelles à encens disposées sur chaque meuble. Pour masquer l'odeur de pourriture? Cela impliquerait que Lena vivait avec cette odeur. Non, peu probable. Elle avait dû quitter son appartement sans le nettoyer, et Dieu savait ce que Kat trouverait en entrant dans la cuisine. L'encens n'était là que pour le plaisir. À l'exception de deux affiches de groupes de musique gothique ou punk, Kat n'était pas en mesure de faire la différence, les murs étaient nus. Un mince filet de soleil s'immisçait difficilement dans l'interstice du volet de l'unique fenêtre, posant son trait d'or sur le lino imitation parquet. Une bouteille de coca vide gisait au pied du sofa. Lena avait-elle fermé tous ses volets avant de partir, prévoyant une absence prolongée, Ou était-elle partie tôt un matin sans avoir le temps de tout ouvrir? Était-ce dans ses habitudes de tout calfeutrer chaque nuit? Kat s'efforça de maîtriser l'afflux de questions qui surgissaient et de les ordonner. Il y avait celles qui faisaient sens, celles qui nécessitaient de se renseigner et donc de débusquer la source de ces informations, et les interrogations parasites qu'il fallait écarter pour le moment. Est-ce qu'elle partirait longtemps sans ranger tout ce foutoir? Kat nota mentalement de demander à sa mère, mais surtout à d'éventuels amis, si Lena était maniaque ou bordélique. Cela ne ressemblait absolument pas à un cambriolage, mais bien à des empreintes de vie qu'une fille sans discipline de rangement aurait pu accumuler facilement. Kat se rapprocha de la table et se pencha pour constater qu'il n'y avait pratiquement pas de poussière. Lena n'avait pas disparu depuis si longtemps. 10 jours, comme sa mère le pensait, pouvaient correspondre. Kat se gardait bien d'en faire une preuve irréfutable, mais elle aimait accumuler les informations pour se faire son idée. Sur une table de chevet près du sofa, elle aperçut une pile de flyers et les compulsa brièvement. Des concerts, principalement. Punk, gothique, hard rock, ce genre de musique que Kat ne connaissait pas du tout. Dans des salles modestes, quelques-unes non loin, d'autres plus éloignées, dans Brooklyn, une dans le Queens. Un event de tatouage live. Un autre de piercing et scarification en public. Une pub pour une conférence sur l'apocalypse. Puis des annonces de soirées à thème, même genre d'ambiance. Clous, cuir, maquillage et gros décibels, pensa Kat. Alcool, drogue, probablement. Lena y faisait-elle des rencontres? Ce n'était pas le genre de sortie qu'on faisait seule. Elle devait avoir au moins une connaissance pour l'accompagner. Il fallait l'identifier. Avait-elle un petit ami? Question parasite. Plus tard. Reste sur le concret, ici et maintenant. Elle se pencha pour mieux inspecter les livres dispersés sur la table. Pour une fille qui avait laissé tomber ses études, elle semblait bien studieuse. Des ouvrages sur le tatouage, deux ressemblaient à des catalogues de photos, mais la plupart étaient théoriques, sur l'histoire du tatouage, c'est symbolique. Manuel du suicide parfait. Cette fois, Kat l'attrapa et le compulsa lentement. Plusieurs pages étaient cornées, à chaque fois sur des méthodes qui décrivaient précisément comment faire pour parvenir à se tuer sans souffrir. Merde. Kat passa à la bibliothèque du fond. Manifestement, Lena avait conservé ses manuels de sociologie. Ils occupaient une large place, mais la privée remarqua qu'ils étaient globalement disposés en bas, moins accessibles. Au-dessus se trouvaient des livres de philosophie, parfois de spiritualité, quelques guides de bien-être pour trouver le vrai soi, s'affranchir du regard des autres, vivre hors de la société, et ainsi de suite. Un autre traitait du tatouage, mais cette fois sur la technique même. Le suivant sur les différentes encres possibles. Et là encore, Kat tomba sur un mode d'emploi du suicide juste à côté d'un livre à la tranche noire titré « La mort, pourquoi en avons-nous peur ?» Cela commençait à faire beaucoup. Kat redoutait la suite. Si elle s'est foutue en l'air, alors qui a envoyé le SMS à sa mère hier soir? Et pourquoi? Il faudrait tout de même qu'elle fasse le tour des corps non identifiés retrouvés dernièrement dans un rayon de 150 km au moins. Qu'elle liste les jeunes femmes. Lorsque Kat avait demandé à Annie Fowlings si Lena avait un signe physique reconnaissable, la mère avait serré les dents. Elle comprenait l'objet de cette question, et elle avait certainement dû batailler avec elle-même pour envisager cette hypothèse et répondre. Lena avait un tatouage d'ange sur l'épaule gauche, en souvenir de sa petite sœur. Mais Annie suspectait qu'elle en avait fait d'autres depuis, bien qu'elle ne puisse le certifier. Lena aimait les vêtements couvrants, elle cachait beaucoup son corps. Kat vérifierait si l'un des cadavres de jeune femme arborait un ange sur l'épaule gauche. Les flics avaient peut-être au moins lancé cette recherche s'ils avaient un minimum de conscience professionnelle. Mais rien n'était moins sûr. Annie Fowlings n'était pas un personnage qui poussait à la compassion. Et sa fille était libre de partir loin d'elle sans donner signe de vie si bon lui semblait. Et si ces livres appartenaient à une autre personne qui venait souvent ici, comme un petit ami? La question n'était plus parasite finalement. Kat avait du mal à croire en cette éventualité, mais il fallait qu'elle garde toutes les hypothèses ouvertes. Son regard dériva vers le sommet du meuble. Un pendule y gisait avec un jeu de tarot divinatoire devant des livres ésotériques. Magie blanche, magie noire, le pouvoir de la prescience, les forces occultes et ainsi de suite. La plupart accusaient des marques d'usure, témoins d'un intérêt régulier. Léna faisait une obsession. Sauf si elle les a achetées d'occasion. Vas-y, mollo avec les déductions rapides. Kat hésita alors à sortir son appareil photo pour mitrailler chaque parcelle du salon, mais opta plutôt pour une inspection complète en priorité. La cuisine ne sentait pas plus fort que le reste, à moins que son odorat ne soit déjà anesthésié, et reflétait le même laisser-aller. Vaisselle pas faite et partiellement moisie dans l'évier, placard mal rangé, ménage douteux. Plusieurs sachets de café Starbucks s'accumulaient un peu partout. Trop pour que ce soit juste des achats dispersés. Un peu de fauche sur le lieu de travail. Kat posa la main sur le frigo avec appréhension et prit une grosse rasade d'oxygène avant de l'ouvrir. Sa lampe éclaira des compartiments quasi vides à l'exception d'un pot de yaourt, un autre de cream cheese, quelques condiments. Aucune infection nauséabonde ni assiette grouillante. Kat en fut soulagée avant de s'interroger de nouveau sur la provenance de la putréfaction. Elle se glissa dans le couloir et poussa la porte de la chambre du bout de sa chaussure. Son faisceau attrapa un angle du lit pas fait et un sweat à capuche étalé à son pied. D'un pas prudent, Kat pénétra dans la pièce. L'odeur émanait d'ici, sans aucun doute. Matelas large, mais une unique table de chevet et aucune trace de présence masculine ou d'une autre personne. À vérifier en étudiant la garde-robe et la salle de bain. A priori, Léna vivait vraiment seule, aucune décoration, penderie fermée. Une chambre fonctionnelle. Pas du genre à s'attarder sur la... Kat s'immobilisa. Face au lit, sur le dessus d'une commode, un amas de poils trônait étrangement, comme assis, les pattes écartées. Dans la blancheur artificielle qui le dévoilait, le pelage du chat paraissait gris. Sa tête gisait de côté, au-dessus de son ventre ouvert, ses entrailles étalées devant lui. Soudain, ces dernières se mirent à s'agiter et les boyaux se soulevèrent, puis se mirent à ramper dans la direction de Kat, qui se rattrapa au chambranle pour ne pas trébucher. D'un geste sec, de sa lampe, elle refigea l'horreur et comprit. Des asticots se dandinaient dans la viande gâtée et donnaient l'illusion qu'elle se déplaçait. La lame souillée d'un scalpel brilla fugacement au passage de la lumière, ainsi que d'autres instruments chirurgicaux. Kat eut envie de sortir, de condamner la chambre, mais son instinct professionnel le lui interdit. Même si tout semblait clair compte tenu des goûts particuliers de Léna et de ses lectures, il fallait vérifier, tout examiner, ne pas prendre le risque de passer à côté d'un indice. Et si elle avait laissé une lettre à côté du cadavre de l'animal ? Kat se motiva en inspirant profondément l'air fétide, toussa dans la foulée, pas loin de vomir, puis se rapprocha de la commode. Elle nota parmi les outils une sorte de gros stylo prolongé par un fil électrique, avant de reconnaître un fer de pyrogravure. Sauf que celui-ci était nettement plus évolué que ceux de son enfance. Un boîtier permettait d'en régler la température, ou même d'en changer les pannes selon l'effet souhaité. Le jeune chat avait subi une éventration totale avant d'être disposé, presque assis contre le mur, face au lit. À quoi jouait Léna Fallings ? Quel genre de taré était-ce ? Un sacrifice ? Une expérience cruelle et immonde ? Les vers se cambraient dans un chuintement insupportable, et pourtant Kat tenait bon, orientant son pinceau blanc sur chaque détail, en quête d'une information. Les intestins et des organes avaient été complètement vidés, imbibant le meuble d'un sang devenu opaque, noir et épais, presque vitrifié. Une cavité bien ouverte, la cage thoracique certainement écartée avec force, laissait entreapercevoir la colonne vertébrale. Kat soupira, proche de la nausée. Elle en avait assez vu. Elle ne trouverait rien de plus. Elle était sur le point de rebrousser chemin, lorsqu'elle décida de faire les photos tout de suite pour en finir avec cette pièce et ne plus avoir à y remettre les pieds. Toujours se constituer un album photo. Toujours. Big Tony le lui avait répété maintes fois. C'était la première règle. Pour pouvoir y revenir à tout moment et parce que c'était une preuve du boulot effectué pour le client, pour justifier les honoraires. Préférant voyager léger dans ce quartier, Kat n'avait pas emporté le gros Canon des filatures, seulement un petit boîtier numérique assez précis pour des photos d'intérieur. Elle fit les réglages adéquats et soupira de nouveau avant de se coller à la corvée. Choisir les différents angles pour ne rien manquer, s'assurer de la netteté, de la lumière suffisante et multiplier les clichés. Pas trop pour ne pas passer ensuite des heures à tout trier, juste ce qu'il fallait. Flash, flash, flash. Voilà. Presque terminé. Kat s'efforçait de respirer par la bouche pour s'épargner au mieux le parfum de décomposition. Encore une ou deux photos de près, notamment le corps béant. Flash. Kat fronça les sourcils. Il lui avait semblé apercevoir quelque chose d'inhabituel dans le chat. Elle se pencha un peu plus. Le clapotis des asticots se fit plus prégnant en même temps que l'odeur de la viande pourrie, acide, ferreuse et graisse rance. Kat scruta la cavité ouverte, rouge, immonde, sans rien voir de plus. Alors elle y ajouta un coup de flash. Les ombres des vers qui se redressaient en se dandinant se projetèrent sur le pelage sombre du chat. Un autre flash. Des marques. Noires. Fines. Comme des symboles incompréhensibles. Sorte d'alphabet inconnu. Kat avait presque le nez sur le cadavre. Flash. Cette fois, elle en fut certaine. On avait écrit dans la bête. Pyrogravé les os de sa colonne vertébrale.